Là, j'aurais une question directement sur votre technique. Comment vous faites ? Comment vous travaillez, de manière très pragmatique, comment vous approchez la page ? Comment vous approchez le trait, le dessin, la couleur ? Parce que vous êtes avant tout, moi, en tout cas, en lisant vos BD, j'ai l'impression que vous êtes avant tout un peintre. Enfin, que ce qui vous intéresse, c'est la couleur, quoi.
Je suis un peintre frustré, d'une certaine manière. Pour l'instant, avec la bande dessinée, j'ai la chance que ça marche plutôt bien. Donc, j'ai enchaîné les différents albums. Là, je sors mon cinquième actuellement. Du coup, j'ai laissé un peu la peinture de côté et j'ai cette frustration, je pense. Et ça se ressent de plus en plus dans mon travail. Où plus ça va, plus je vais avoir envie de mettre des pleines pages où je vais vraiment pouvoir faire des tableaux de ciel et des choses peintes. Et j'essaye d'avoir un dessin qui reste quand même lisible. Parce que c'est l'inconvénient quand on met des grands gestes picturaux, des grands effets de peinture, c'est que du coup, à la lecture, ça risque de briser un peu les choses. J'essaie toujours d'avoir en tête que je suis en train de raconter une histoire et que le dessin est quand même là avant tout pour servir le propos et il faut surtout pas que le lecteur décroche. Donc j'essaie de me faire plaisir visuellement, mais je garde avant tout en tête cette lisibilité, la narration. C'est pour ça que je travaille en première partie à l'ordinateur. Je fais un ancrage complet de ma planche à l'ordinateur. Ça me permet vraiment de caler les choses, de caler la taille des cases, etc. Et ensuite, je les imprime sur des grands formats de papier aquarelle. Et là, je me fais plaisir, je peins, je crée des accidents. Souvent, je me fais trop plaisir. Et à l'ordinateur, j'ai besoin de rescanner mes planches pour vraiment qu'on perd pas de fil de l'histoire.
Alors, en fait, quand vous avez un projet, parce que, encore une fois, hein, vous êtes souvent scénariste, dessinateur sur vos projets, vous avez une idée de projet, est-ce que vous faites directement un découpage pour avoir le nombre de pages ? Enfin, voilà. Est-ce que dès le départ, vous dites, là, j'aurai 150 pages, tac, 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 et que vous faites le découpage ? Ou est-ce que le projet évolue au fur et à mesure ? Comment vous fonctionnez ?
C'est assez étrange, mais pour le moment, donc là, je suis en train en plus de travailler sur mon sixième album. Mais à chaque fois que j'ai l'idée d'un projet, je peux tout de suite déterminer si ça va faire 64 pages ou 120 pages. Et quand je fais mon découpage, je le fais d'une certaine manière un peu à l'aveugle. Et à chaque fois, je tombe juste à une ou deux pages près. C'est assez étonnant. C'est que je pense qu'il y a une grande part d'inconscience et que même quand on ne travaille pas sur un projet, finalement, notre cerveau est déjà en train de travailler dessus. Et le jour où je prends mon crayon et je commence à rédiger le synopsis et faire le storyboard, finalement, j'avais déjà anticipé ces questions-là.
À la dérive, on voit qu'il y a une vraie volonté sur la mise en page, justement, en sortant du gaufrier classique complètement, avec des mises en page plus rondes, des planches qui vont effectivement avoir des découpages sous forme d'arabesque. On est quand même sur... C'était une volonté, du coup, de jouer sur cette mise en page, sur cet album, et de revenir sur un côté, du coup, plus 1900, effectivement, dans la présentation.
Pour moi, c'était un des grands moteurs de ce projet. C'était le fait de reprendre l'imagerie de l'époque, les mises en page. Mais encore une fois, il fallait que ça ait un sens par rapport à la lecture. Donc j'ai veillé à ce que ça ne soit pas gratuit. Et je voulais aussi, et c'était important pour moi sur cet album, qu'il y ait presque une surprise à chaque fois qu'on tourne la page. Finalement, comme les gaufriers ne sont jamais les mêmes d'une page à l'autre, qu'on soit toujours dans l'attente de voir ce que je réserve au lecteur d'une page à l'autre. Pour moi, c'est important d'avoir cette dimension de découverte et de plaisir, même dans mon travail. Parce que quand je dessine un album, j'ai déjà fait tout le storyboard en amont, j'ai déjà calé tous les textes. Donc d'une certaine manière, je n'arrive pas à refaire le dessin froidement tel qu'il a été écrit au départ, vu que ça prend un an de dessiner un album. J'ai besoin de tester des choses alors qu'une page est déjà calée. Je vais me dire, tiens, si là j'insérais un gros motif, si là je faisais une case ronde, il faut que, même si les bases sont calées, il faut que le dessin soit en mouvement et que la page bouge.
Alors, vous en aviez parlé un peu auparavant, de moments clés dans vos narrations, où à partir de là, vous allez poncer une couleur et faire un dégradé, enfin en tout cas travailler sur l'éventail chromatique que ça peut dégager. Est-ce que cette scène, vous l'avez en tête avant de vous lancer dans l'album, en disant, c'est les moments clés de ma narration autour duquel je vais faire tourner toute l'intrigue, ou est-ce que à un moment donné vous arrivez à un tiers de vos cases à créer un moment fort et vous dites, ah mince, là va falloir que je pense à la couleur?
Je travaille à partir d'images. J'ai souvent quand j'ai l'envie de faire un projet, j'ai d'abord des images en tête, des choses que j'ai envie de dessiner. Par exemple, sur À la dérive, ça se passe pendant les inondations de Paris. Ça faisait plusieurs années que j'ai accumulé la documentation avec des photos de Paris sous les eaux. Je trouvais magnifique. Il y a des cases que j'ai représentées dans l'album, mais dont j'avais déjà l'envie de dessin quelques années auparavant, et je ne savais pas encore dans quelle histoire j'allais les raconter. Et une fois que j'ai trouvé un prétexte finalement à rassembler des images, c'est là que l'histoire se construit. Souvent on a le scénario, on a le texte à la base, et ensuite on fait les images, et moi c'est presque l'inverse, c'est à partir d'une idée de dessin que j'ai l'idée du texte.
Ça explique ces grandes planches qu'on retrouve dans La Dérive et aussi dans Les Lendemains du Monde, qui vont complètement trancher avec justement ce qu'on avait sur les premiers albums, où on était quand même sur des images, sur des planches plus petites. Et là, effectivement, on arrive sur des doubles planches qui sont absolument fabuleuses et qui, du coup, s'intègrent presque comme un tableau à l'intérieur. Et c'est vrai que quand on voit les albums, on a l'impression que le tableau était là avant même le scénario. C'est du coup le cas ?
C'est presque le cas, mais effectivement, pour moi, c'est un cadeau, entre guillemets, quand je fais un album, de savoir que j'aurai plusieurs espaces où je vais pouvoir vraiment dessiner comme je l'entends. Parce que c'est sur des grandes paginations uniquement qu'on peut se permettre d'avoir une double page avec un paysage ou une pleine page. On ne peut pas se le permettre sur un album qui a moins de pages, comme Egon Schiele, qui avait 64 pages. C'est aussi quelque chose que je me permets avec l'expérience. Sur mes premiers albums, j'avais tout approuvé, j'avais pas encore fait de scénario, donc d'une certaine manière, j'essayais plus de me concentrer sur la façon de raconter l'histoire, sur la narration. Aujourd'hui, comme je suis plus à l'aise, je me permets de m'offrir ces espaces de plaisir graphique.
Alors justement, on en arrive sur le cinquième album, qui est là en exclusivité. On a un style graphique qui aussi est très différent de ce qu'on avait jusqu'ici. C'est une volonté de passer à quelque chose d'autre visuellement. C'était lié aussi au changement d'éditeur, peut-être, avec une possibilité d'aller dans des choses plus personnelles. Qu'est-ce qui justifie ce changement qui est encore plus brutal qu'avec les quatre précédents ?
Comme je n'ai aucun retour objectif sur mon travail, je vois pas tellement cette différence, en fait, parce que pour moi, à chaque album, comme je vous l'ai dit, je change de technique, je change de dessin, et finalement, entre mon premier album et celui qui sort mercredi 4 avril, il s'est passé 6 ans et demi, en fait. Donc pendant 6 ans et demi, mes envies sont différentes, mes influences aussi. Et il faut savoir qu'un album, ça prend du temps. C'est au moins un an à dessiner les mêmes personnages, à dessiner les mêmes décors. Donc forcément, sur 6 ans et demi à faire de la bande dessinée quasiment tous les jours, on n'a pas forcément envie de dessiner de la même manière. Et c'est vrai que plus ça va, plus je pense d'une certaine manière avoir trouvé mon style ou l'essence de ce que j'aime faire et ce que j'ai envie de faire. Avoir avoir une combinaison entre un dessin réaliste, semi-réaliste, où les proportions des personnages veillent toujours à ce que ce soit juste, à ce que les expressions, même pour moi c'est les expressions qui sont capitales chez les personnages, c'est les regards, les visages. Mais une fois que j'ai posé mes personnages, j'aime à brosser des décors et brosser entre guillemets du flou. Certaines personnes sont un peu désarçonnées par ça, parce que j'aime les dessins où tout n'est pas véritablement défini et où le lecteur peut continuer à imaginer le décor.
Du coup, le photoréalisme n'est pas une volonté, clairement. Et c'est vrai que du coup, ces planches de décor dont on parlait tout à l'heure, qui elles s'en approchent, même si on est dans un style plus fantastique, hein, les décors qu'on va voir dans Le Lendemain du Monde ne sont pas des décors qu'on aurait pu avoir en photo. Mais effectivement, on est quand même sur quelque chose qui ne donne pas cette part de flou et qui permet aussi de trancher par rapport à ça. C'est-à-dire c'est ce qui fait cette dynamique qui ressort des dessins, puisque c'est un trait qui du coup est très dynamique sur les personnages, et ces scènes sont finalement assez reposantes parce qu'elles ne sont pas immobiles, mais le trait n'a plus ce flou et on a quelque chose de très posé. Même dans des scènes de tempête comme dans La Dérive, on a ce côté très posé, très tableau justement, qui est assez intéressant aussi et qui tranche par rapport au personnage.
Donc on va finir là-dessus parce qu'on ne va pas vous tenir plus longtemps. Vous avez un sixième projet en route, est-ce que vous pouvez en parler un peu ou pas ?
Oui, tout à fait. C'est une bande dessinée, c'est une biographie, mais une biographie très très libre et très poétique autour de Gustave Eiffel. Je travaille avec un ami qui est dessinateur et scénariste lui aussi, et on a un vrai échange, c'est qu'on fait des allers-retours sur le storyboard, sur le scénario, comme je suis scénariste aussi et que lui est dessinateur. On a un vrai regard, un vrai échange, donc c'est un plaisir de travailler avec lui. Et l'album devrait sortir à la fin de l'année ou début de l'année prochaine chez Casterman.
Avec un titre ?
A priori, le livre s'appellerait A comme Alice. Parce qu'en fait, on part d'une anecdote qui est véridique à 90%. C'est qu'Alice a... Gustave Eiffel a eu un grand amour dans sa vie, c'était sa cousine Alice. Mais ils n'ont pas vraiment vécu ensemble, ça a été un amour caché. Et pour lui rendre hommage, il aurait trouvé la forme de la tour Eiffel dans la forme du A de son prénom.
Donc un très beau projet qu'on va suivre avec Xavier Coste. Merci de cette interview, de nous avoir répondu. Et puis on vous souhaite de vous retrouver bientôt sur d'autres albums.
Merci beaucoup.